Avoigny. Cette semaine, Adila Benedjaizou rencontre Philippe Mangeau. Ce soir, grandir. Philippe Mangeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un genre de vétéran. Un jeune vétéran, mais un vétéran quand même. D'abord parce que vous avez survécu à une maladie, le sida, qui vous a attrapé en 1986, à une période où il n'existait encore aucun traitement. Une maladie qui a tué plus de 30 millions de personnes, dont on meurt encore, et avec laquelle vous vivez aujourd'hui. Mais vous avez surtout lutté pour la reconnaissance et les droits des séropositifs au sein de l'association ACT UP, comme le grand public l'a découvert dans le film 120 battements par minute, dont vous êtes le co-scénariste. La lutte contre le sida a été une guerre qu'on ne voyait pas ou qu'on ne voulait pas voir, mais qui a eu ses combattants, dont vous êtes, ses victimes, ses victoires et ses défaites. C'est dans cette lutte militante que vous avez appris ce que vous appelez l'intelligence collective, une intelligence que vous avez convoquée dans vos autres engagements, car pour vous, le politique est partout. Vous avez fondé la revue Vacarme, vous avez participé au mouvement Nous sommes la gauche, vous enseignez en classe préparatoire et vous avez créé depuis 2017 un observatoire des passions modernes qui a lieu une fois par mois au centre Georges Pompidou. On vous qualifie d'intellectuel de l'agir, d'intellectuel sans livre, de passionné du collectif, d'éternel jeune homme. On vous appelle aussi la grande gigue ou bien le fripounet du sida. Nous allons essayer de vous faire raconter, durant 5 rencontres, l'homme que l'on désigne ainsi, l'homme que vous êtes. Et pour commencer cette découverte, Philippe Mangeau, je voudrais parler de votre compte Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, Instagram est une application qui permet de se raconter à travers des images. C'est une sorte de journal intime à ciel ouvert, un exercice dans lequel vous excellez. Et dans votre Instagram, il y a des photos de vous, de vos proches, des images, et il y a cette phrase de Roberto Martinez qui dit « Quand j'étais petit, le futur était différent. » Alors forcément, j'ai envie de vous demander, Philippe Mangeau, c'était comment le futur quand vous étiez petit ?
C'était différent. Là, vous me demandez de faire un effort de mémoire, mais je suis bien incapable de dire à quoi il ressemblait le futur quand j'étais petit. Ne serait-ce que parce que, vous allez le constater, j'ai très peu de souvenirs de quand j'étais petit. Pour autant, j'ai l'impression constante que j'ai vécu, impression à tort ou à raison, je suis incapable de dire si c'est vrai, mais j'ai vécu une enfance dans une époque où le monde semblait relativement réconcilié. Et c'est quelque chose qui... J'ai pas d'enfant, mais j'ai beaucoup d'enfants au sens où les enfants de mes amis font partie de ma famille. Et c'est quelque chose qui me hante beaucoup, ce sentiment qu'on offre aux enfants d'aujourd'hui un monde beaucoup plus compliqué, sans doute, beaucoup plus violent, beaucoup plus inquiétant, où la question de leur place et la question de leur voix est beaucoup moins claire, beaucoup moins espérée, beaucoup moins attendue qu'elle l'était quand j'étais petit, justement. Elle n'a pas été tellement que ça.
Est-ce que vous vous souvenez, vous qui avez peu de souvenirs, de quel genre d'enfant vous étiez ?
Oh, je crois que j'étais un enfant très chiant et très sage à la fois, comme plein d'enfants. En fait, comme tous les enfants. Je suis bien incapable de dire ce que j'étais comme genre d'enfant, mais on m'a toujours dit que je pleurais tout le temps, que j'étais très en colère, que j'étais très jaloux, que j'étais pas un enfant simple. Voilà. Et pour autant, quand il fallait être sage, je savais être sage. J'étais sage à l'école. J'étais le genre d'enfant qui arrive à passer inaperçu.
On vous disait en colère, mais vous vous souvenez de vos colères ?
Non, mais je me souviens pas du tout. Non, alors là, vraiment, quand je vous dis que j'ai pas de souvenirs d'enfance, c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que le disque dur a été effacé à plusieurs reprises dans ma vie. Je sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais Si bien que je n'ai... Tous mes souvenirs sont des souvenirs refabriqués, soit à la faveur de photographies, soit à la faveur de récits de famille, parce que, comme dans toutes les familles, il y a des légendes qui pèsent sur chaque enfant. Enfin, il y en a une en particulier. C'est que quand je pleurais, je me regardais dans la glace pleurant.
Et vous, vous n'avez pas souvenir de votre...
Heureusement que je ne me souviens pas de ça.
Vous vous souvenez de ce qui vous plaisait ?
En fait, je n'ai qu'un souvenir d'enfance. Un seul souvenir dont je suis absolument certain qu'il n'a pas été fabriqué par une photographie, parce qu'il n'y a pas de photographie qui correspond. Je pense que c'est un souvenir de vacances. C'est sans doute en Irlande, parce qu'on allait en Irlande dans ces années-là. Et on rentre peut-être de la plage vers la maison. Et il y a une haie sur la route, sur la gauche de la route, avec des mûriers, et on mange des mûres. Et la seule chose dont je me souviens très très clairement, c'est que ça ne finira jamais. En revanche, je suis bien incapable de dire si c'est un plaisir ou une hantise que ça finisse jamais. Voilà. Donc je peux pas dire ce qui me plaisait à l'époque. Mais en tous les cas, il y avait déjà cette idée qu'il n'est pas sûr que ça se termine, sans savoir si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle.
Vous avez voulu faire une thèse sur Jules Verne, par exemple. Est-ce que ça, c'est un goût qui vous vient de l'enfance ?
Non, même pas. D'ailleurs, c'est un... Je suis prof de littérature, mais j'ai commencé à lire très tard. J'étais pas un gros lecteur quand j'étais petit. J'avais de quoi faire avec ma vie sans passer par les livres. Peut-être qu'à un moment, je dirais comment j'ai eu le sentiment que ça allait passer par les livres et que ça pouvait sauver la vie, les livres. Mais non, j'étais pas un gros lecteur et surtout pas un lecteur de littérature associée à la fabrication des petits garçons, comme Jules Verne peut l'être. Donc le choix de travailler sur Jules Verne est très tardif. En fait, ça s'est fait alors que j'avais eu une bourse pour aller vivre en Angleterre en 89, j'étais parti pour travailler sur des carnets d'écrivains romantiques, et en particulier les carnets de Coleridge. Et puis arrivé en Angleterre avec cette bourse, je me suis rendu compte que ça serait un travail infaisable, parce que les carnets n'avaient pas été publiés, parce qu'ils étaient dans un état manuscrit particulièrement difficile à lire, parce que une chercheuse canadienne de 85 ans y avait passé sa vie et n'avait jamais dépassé les 10 premiers carnets. Et donc il a fallu goupiller vraiment en toute hâte un autre sujet de thèse. Et il se trouve que à côté du collège où j'étais à Oxford, il y avait une librairie qui vendait les œuvres complètes de Jules Verne en français, que j'ai acheté et que j'ai dévoré alors que j'étais en Angleterre. Donc c'est vraiment une enfance refabriquée.
Et pour vous, quand est-ce qu'elle s'achève, cette enfance dont vous n'avez pas de souvenir ?
Je crois qu'elle s'achève au collège. C'est-à-dire à un moment où l'école prend soudain du sens pour moi. C'est-à-dire qu'il est possible qu'une des raisons pour lesquelles j'ai pas de souvenirs d'enfance, et après je mens sans doute un peu en disant ça, c'est une formule aussi, mais il est possible que ça tienne au fait que je ne tenais en fait à rien de particulier. C'est-à-dire j'étais accroché, j'étais hors sol, quoi, sans doute. La vie était donnée. Et à partir du moment où elle a cessé d'être donnée, à partir du moment où j'ai eu le sentiment qu'il allait falloir que je fasse quelque chose pour sauver ma peau, et c'est notamment passé par l'école, les souvenirs commencent. Et c'est passé par l'école simplement parce que ce qui est premier, c'est que je me suis fait traiter de pédé. Par un type qui avait sans doute des raisons particulières de savoir que j'étais pédé. Parce que je le trouvais très beau. Je me souviens très bien, c'était un Iranien, très beau. C'était un prince. Et il m'a fait savoir qu'il savait que je le trouvais très beau et qu'il n'y consentait pas. Et à partir de ce moment-là, la question était très simple. C'est qu'à partir du moment où un mot venait me désigner, il allait falloir que je, non pas que je m'en défende, mais que je trouve le moyen de l'assumer. Et tout d'un coup, l'école a pris du sens. Je suis devenu un très bon élève, j'étais un bon élève, j'étais un élève tranquille, quoi, un élève qui passe inaperçu. Et je suis devenu un très bon élève. J'ai décidé qu'on ne me fera jamais chier. Donc ça, c'est un souvenir premier autour duquel quelque chose comme une carrière scolaire commence, quelque chose comme un engagement à l'intérieur de l'école, dont je ne suis jamais sorti en vérité puisque je suis encore prof, mais qui organise, qui ordonne sans doute pour une part mon métier de prof. On peut devenir un bon élève par décision. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence. Tout le monde l'a, l'intelligence. D'ailleurs, je suis intimement persuadé qu'on ne peut être prof réellement que si on croit dans l'égalité des intelligences. Donc être prof, c'est contribuer à ce déclenchement de l'intelligence qui est là et qui a eu lieu pour moi, indépendamment d'ailleurs d'une action particulière de prof, mais sur la base d'une décision qui était qu'il allait falloir que je me construise avec un truc potentiellement dangereux qui était mon désir.
Une décision et un sentiment de nécessité.
Oui, j'avais pas du tout envie qu'on me casse la gueule, oui.
Et ce mot jeté par cet élève, ça a été pour vous une découverte?
Non, je savais très bien. Non, je savais très bien. Je crois que je savais depuis très très longtemps, mais pour autant, entre le savoir et accepter que les autres le sachent, il y a quand même un écart très très grand, évidemment. Non, parce qu'il y a un autre souvenir d'enfance, pour le coup, qui est un souvenir érotique, et ça se passe aussi en Irlande, donc je pense que... Et je propose qu'on ne s'attarde pas particulièrement à l'analyser, en tout cas. Je me souviens d'un type qui devait être fermier et qui attrapait des cochons par la queue. Voilà. Il était très roux, très rouge sans doute. Il avait des mains énormes et je me disais qu'on ne pouvait pas être plus beau que ce type très roux et très rouge. Et je crois que mon désir était relativement fixé à ce moment-là sur des garçons très roux et très rouges. Après, il s'est étendu à d'autres types de garçons. Donc ça, je le savais. Je savais. J'avais pas de mots, évidemment, pour ça, parce qu'on n'a pas de mots pour ça. Et de toute façon, on en avait encore moins à l'époque qu'on en a aujourd'hui. Mais je savais qu'il allait falloir que je fasse avec un désir qui n'était pas le même que celui de mes parents. Et avec un désir pour lequel aucune histoire dans ma culture familiale n'était disponible. Et donc je pense que la stupéfaction, ça n'a pas été la découverte de mon propre désir, parce que pour autant que je m'en souvienne, il a toujours été là, mais la stupéfaction, c'était la découverte qu'on le découvre.
Donc vous êtes adolescent à la fin des années 70.
Oui. Je suis né en 65.
Et ce désir, cette homosexualité, comment vous la vivez dans cette époque? C'est-à-dire pas uniquement le rapport à votre propre désir, mais ce que vous pouvez voir des...
Je crois que je vois rien du tout. Je vois rien du tout. J'ignore complètement qu'il y a d'autres homosexuels. Ça n'existe pas du tout. Alors évidemment, c'est un peu difficile d'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y a pas de fiction. En tous les cas, ces fictions ne me sont pas proposées. Donc c'est en effet une expérience très très grande de solitude, qui n'est pas forcément une expérience malheureuse pour autant. J'ai pas le souvenir d'avoir été un enfant malheureux, ni un adolescent malheureux. C'est pas forcément une expérience malheureuse, mais c'est quand même une expérience de solitude. Alors, il y a eu un épisode, qui est un épisode... compliqué, sans doute intéressant à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, qui est que la première fois que j'ai rencontré effectivement la sexualité, c'est parce que j'étais amoureux de mon prof de français. J'étais en quatrième et j'avais 13 ans. Et il m'a proposé de venir chez lui. Et j'y suis allé. Et ma mère m'y a accompagné. Ce qui est très mystérieux quand on y pense aujourd'hui. Mais elle m'y a accompagné plusieurs fois. Et ce type qui était un jeune homme, qui devait avoir moins de 30 ans, et que j'admirais énormément, vivait avec une de ses élèves, et avec sa mère. Et cette élève avait 16 ans, et moi j'en avais 13. Et elle était à l'école et lui n'était pas à l'école, c'était le mercredi après-midi, je crois, ou quelque chose comme ça, et il se masturbait sur moi. Et quand j'ai raconté cette histoire récemment, tout le monde autour de moi, c'était dans la foulée de l'épisode MeToo, tout le monde autour de moi m'a opposée, une sorte de silence consterné. Et puis, tout d'un coup, la parole s'est libérée et on m'a dit « mais tu t'es fait violer ». Mais non. Je suis très clair là-dessus. Je ne me suis pas fait violer. Et je sais qu'aujourd'hui, ce jeune homme qui doit être vieux et dont je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu, serait en prison, sans doute. Mais ça veut dire qu'on est vraiment dans une autre époque. C'est d'ailleurs, quand on y pense, quand on regarde la littérature de l'époque, il y avait une littérature de la pédophilie. Il y avait des gens comme Tony Duvert, il y avait des gens comme... Il y avait des gens comme Yves Navarre, par exemple, qui parlaient très volontiers de pédophilie. Il était beaucoup plus facile de parler de pédophilie que de parler d'homosexualité. Ça nous paraît difficile à comprendre aujourd'hui, mais ça veut dire que la question de la norme et la question du consentement se posaient différemment. Donc je n'ai pas été violée, ça a été ma première expérience sexuelle. Peut-être que ça a produit quelque chose comme une inquiétude ou un traumatisme qui est relativement difficile à identifier. Je lui en veux de quelque chose qui est qu'à la fin de l'année, sur mon bulletin, il a dit que je devrais faire un tout petit peu d'effort pour me fondre dans le groupe. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça, pour le coup, c'était vraiment pervers. C'est-à-dire que sa perversité, elle était là. Voilà, c'est ma façon à moi de me venger aujourd'hui de cette saloperie qu'il m'a faite et qui n'est pas la saloperie qu'on croit qu'il m'a faite.
Vous avez parlé de votre première expérience de sexualité. Est-ce que vous avez des souvenirs amoureux de cette adolescence ?
Non, j'ai pas de souvenirs particulièrement amoureux. Après, il y a une histoire d'amour plus tardive. J'ai des amitiés, voilà. Et j'ai jamais été très clair sur la différence entre l'amitié et l'amour, en fait. Donc j'ai des amitiés qui sont des amitiés amoureuses, mais qui sont pas liées à une sexualité particulière et de ce point de vue, qui sont pas homosexuelles. Ce sont des amitiés avec des filles et des garçons. Et puis il y a le premier amour. Alors j'ai 16 ans et je pars aux États-Unis pour des vacances linguistiques. Mais des vacances linguistiques en immersion, comme on dit aujourd'hui. Et pour des raisons très mystérieuses, je crois que mes parents s'y étaient pris très tard. Je me retrouve dans l'Amérique la moins apparemment désirable, qui est le Kentucky. Donc, l'Amérique conservatrice, où il ne se passe rien. Même pas le Tennessee, le Kentucky. Il y a des chevaux et des concours de Miss dans le Kentucky. Et comme on s'y était pris très tard, je me retrouve chez un couple de retraités. Donc, pas d'enfants. Donc, a priori, tout se présentait extrêmement mal. Mais ça se présentait tellement mal que ça a été magique, évidemment. Parce que ils ont décidé d'enchanter ma vie. Et c'était une époque où le théâtre m'intéressait comme beaucoup de jeunes gens. Et donc j'ai fait un stage de théâtre dans une université américaine. Et c'était un stage où on poussait des cris primo. Enfin bref, il fallait faire tout ce qu'on faisait dans les années 70, quoi. Et se tenir par la main et se mettre en rond et faire des drôles de trucs. Et à un moment, on était tous en rond et il y avait ce type qui s'appelait Marc. Il était à l'autre bout de la ronde et on devait dire « je t'aime » à son voisin. Mais lui, il était à l'autre bout de la ronde. Et il a rompu le cercle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je t'aime » à sa voisine ou à son voisin, il s'est adressé à moi et il a dit « je t'aime Philippe ». J'ai répondu « I love you, Marc », devant tout le monde. Joie, les anges qui chantent dans le ciel, enfin. Et ça a été une histoire d'amour de vacances. Et on faisait le mur chez les deux personnes retraitées qui m'accueillait. Et puis elle s'est terminée. Il est venu en France à un moment et puis il voulait être acteur. Lui, il est devenu acteur. Je l'ai vu pendant un certain temps. C'est-à-dire chaque fois que j'allais voir un blockbuster, c'était le type qui se faisait assassiner dans le couloir du métro ou quelque chose comme ça. Il avait la tête du type qui se fait assassiner. Puis Et puis un jour, j'ai cessé de le voir. Peut-être qu'il a ouvert un restaurant bio dans le Kentucky ou autre chose. Mais en tous les cas, je ne sais pas ce qu'est devenu Marc. Et je ne vais pas faire une annonce sur France Culture pour savoir ce qu'est devenu Marc. Mais ça a été mon premier amour, vraiment. Après, il y en a eu beaucoup d'autres.
Alors, quand est-ce que vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes plus le seul à désirer des hommes?
Alors, je sais pas, peut-être que j'étais dans des endroits où j'étais pas le seul, mais on le disait pas. Donc, j'étais le seul, et peut-être que eux-mêmes ou elles-mêmes étaient les seuls. Et puis, tout d'un coup, on peut en parler. Et ça a été l'hypocagne pour moi. Vraiment. C'est-à-dire le premier lycée parisien. C'est-à-dire un endroit, c'est-à-dire aussi un contexte. Mon hypocagne, c'est le moment où sort au cinéma L'homme blessé de Chéreau. Et ce film me met absolument en pétard. Mais vraiment en pétard. J'étais foudrage simplement parce que j'avais le sentiment. Alors il y avait eu quelque chose auparavant. J'en avais jamais parlé véritablement, sauf à des amis éventuellement, mais des amis qui étaient hétérosexuels, filles ou garçons. Mais j'avais simplement l'impression que cette homosexualité n'était pas celle dont je voulais, que ça ne passerait pas par les pissotières. Et de ce point de vue, et là je dois m'acquitter d'une dette, ne serait-ce que pour dire beaucoup de mal de lui ensuite, la lecture de Renaud Camus avait été centrale pour moi. Nous avons du mal à nous souvenir que ce fasciste aujourd'hui, car Renaud Camus est fasciste, il n'y a pas l'ombre d'un doute, a été quelqu'un qui a sauvé la vie d'un certain nombre de jeunes gays. Simplement parce que ses livres racontaient le pur plaisir d'être homosexuel. La pure joie d'être homosexuel, une joie qui n'était pas du côté de la transgression, mais qui était du côté du plaisir. Et ça a été constitutif pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai vu l'homme blessé était en retard relativement à ce qui était en train de s'inventer, justement, dans les livres de Renaud Camus, dans ce que je lisais. Et donc je me souviens d'en avoir parlé, en disant que c'était pas de l'homosexualité que je voulais. Et donc l'objet transitionnel, ça a été un film, ça a été l'homme blessé. Mais ça m'a permis précisément d'en parler, et ça a permis à un certain nombre de gens, parce qu'en hypocagne, pour des raisons multiples sur lesquelles je m'étendrai pas, mais il y a sans doute une représentation homosexuelle particulièrement importante, parce que les garçons qui font des lettres sont des garçons sensibles. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'on sait bien qu'on est construit socialement. Et voilà, on s'est découvert à plusieurs gays. Et puis c'est aussi le moment où j'ai commencé à sortir beaucoup. C'était un moment très joyeux, le début des années 80. C'était juste après l'élection de Mitterrand. C'était un moment d'ouverture de bars. C'était le moment des Halles et le début du Marais. Et je tombais amoureux à Tire-Larigot.
Donc vous êtes dans un temps d'innocence, d'amour, de sexualité joyeuse.
Oui.
Comment vous apprenez que vous êtes malade?
Alors comment j'apprends que je suis séropositif? Parce que c'était une époque où la distinction entre la séropositivité et la maladie était une distinction plus assurée en un sens qu'elle l'est aujourd'hui, ou moins assurée, je ne sais pas, parce que ça n'a jamais cessé de bouger, mais... Alors là, c'est plus tardif. Je viens de rentrer à l'école normale supérieure. Et je fais beaucoup l'amour. Je sors beaucoup. Je l'avais d'ailleurs beaucoup fait quand j'étais en Cagne aussi. Et je savais qu'il y avait le sida. J'ai eu la même réaction que tout le monde quand j'ai lu dans Libération qu'on parlait de cancer gay. Ça, c'était 83 ou quelque chose comme ça. Je me souviens, c'était juste avant un concours blanc en classe préparatoire. Et ça m'a fait rire. Bien sûr que ça m'a fait rire. Bien sûr qu'il y avait un truc impossible et impensable dans cette expression-là, qui supposait qu'il y ait une complexion particulière des homosexuels, une disponibilité particulière à un cancer particulier, ce qui me semblait très très improbable. Mais pour autant, ça m'a fait rire, mais une espèce de vigilance minimale de lecteur de journal et de consommateur sexuel s'est mise en marche. Et puis j'étais dans une famille où mes parents, parce que je leur avais dit que j'étais gay, m'avaient dit de faire attention. Si bien que je me suis découvert séropositif à mon deuxième test. J'avais fait un premier test et je n'étais pas séropositif. Ce qui veut dire que je me protégeais de façon aléatoire. Je dis pas ça du tout pour me dispenser de toute espèce de responsabilité, mais il faut rappeler que c'était une époque où la publicité pour le préservatif était interdite. Je tiens à le rappeler quand même. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre 87 pour qu'elle commence à être autorisée. Alors qu'on savait très bien comment se transmettait le virus. Donc voilà, je me découvre séropositif à la faveur d'un deuxième test, sans doute très peu de temps après que j'ai été contaminé, ce qui est sans doute une énorme chance. Je me souviens, j'étais avec un type quand je l'apprends. Et pour des raisons très très bizarres, j'ai demandé à... C'est ma mère qui l'a su avant moi. Ce qui est complètement hallucinant quand on y pense, mais je pense que je sais plus pourquoi. On avait dû passer par un réseau. Mes parents travaillent dans le champ. Ma mère est biochimiste, donc peut-être que voilà. Et donc c'est elle qui m'a appelé. Et j'ai raccroché. Et j'ai dit au type avec qui j'étais que j'étais séropo. Et il s'est effondré en pleurs. Et donc je l'ai consolé. Et je me suis pas rendu compte tout de suite que le ciel m'était tombé sur la tête. C'était une époque où le ciel tombait sur la tête quand on était séropositif parce qu'on allait mourir, il n'y avait pas l'ombre d'un doute, quoi. On allait mourir à échéance de 3 à 4 ans. Et en même temps, c'est une question qu'on s'est posée avec Robin Campillo quand on a écrit le film. Est-ce que vraiment on croyait qu'on allait mourir? Est-ce qu'on peut croire qu'on va mourir? Et je crois que je croyais pas. Le ciel m'est tombé sur la tête, j'allais mourir, c'était une évidence et c'était impossible. Et à partir du moment où c'était impossible, il a fallu continuer à vivre normalement. Normalement, en prenant des précautions et avec une vigilance qui devenait une vigilance médicale. Parce que je suis allé voir un médecin, parce que il n'y avait rien à l'époque. Je suis allé voir Willy Rosenbaum, qui est encore mon médecin, dans un hôpital qui allait fermer, parce que ça aussi, on s'en souvient pas, mais c'était les premiers services de maladies infectieuses qui ont accueilli les malades du sida ou les séropositifs sont des services qui étaient destinés à fermer parce que ces maladies, on pensait en avoir fini avec ces maladies. Et donc c'était je me souviens d'un hôpital presque désaffecté, c'était vraiment la désolation, c'était sur les boulevards des Maréchaux, c'était la désolation des désolations, quoi. Mais ceci mis à part, il fallait continuer de vivre et aller simplement plus vite. Donc j'ai passé immédiatement l'agrégation. Et puis je suis parti en Angleterre.
Vivre avec le sida pour vous, c'est un peu comme vivre avec le sida pour les Français qui le découvrent à l'époque. C'est ce qu'on verra au cours de notre prochaine rencontre.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Adila Benedjaizou avec Philippe Mangeau. Avoigny, réalisation Massimo Bellini, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. Avoigny s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.